c'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
Rebelle des radios.
Sur Radio Canu, il est 19h03, presque 19h04, et c'est l'heure du Canu Info avec ce soir.
Eh bien, la ZAD.
Ah, tiens, la ZAD, comme d'hab, parce qu'il y a une grosse manif samedi, et on se demandera avec quelqu'un de la ZAD, avec Camille de la ZAD, on se demandera pourquoi est-ce que il faut encore se déplacer pour aller dans cette putain de Bretagne.
Et tant qu'on en est à parler de territoire autonome, on vous donnera des nouvelles de la région d'Afrine.
On verra pourquoi et comment est-ce que les pauvres députés qui siègent parfois un petit peu à l'Assemblée nationale sont fliqués d'une manière scandaleuse.
Oh. Ensuite, on fera une petite revue de presse de l'intéressant journal Le Parisien.
Et puis on aura Camille qui est ici dans les studios, qui est un autre Camille que le premier, et qui nous parlera des coups de pression de la part des flics autour des squats Villa Urbanais.
Exactement.
Et du coup, on va commencer par l'actu en bref. Hop, juste le temps que j'arrive à enlever ma page. Voilà. Et du coup, on va commencer par de l'actu locale, puisque ça se passe à Lyon. Et il semblerait que cette ville soit une des villes les plus, de plus en plus accueillantes. D'après l'Aderly. Alors, une fois qu'on a vérifié nos sources, l'Aderly, c'est pas un nouveau truc de sondage ou quoi que ce soit. Non, c'est pour l'acronyme de, écoutez bien, l'Agence de développement économique de la région lyonnaise. Et donc, ces chiffres ne concernent malheureusement pas le moindre exilé accueilli dans la région. Non, l'Aderly est plutôt du côté de l'implantation d'entreprises privées, bien sûr. Et de ce côté-là, on se félicite que les chiffres augmentent. 47 nouvelles entreprises étrangères contre 36 en 2016. On est content. Donc là, c'est champagne pour tout le monde et il pourrait bien y avoir Amazon dedans, que tout le monde s'en foutrait des conditions de travail et de l'exploitation que ça voudrait dire derrière. Bref, merci l'Aderly de se communiquer. Et ensuite, pour finir avec ces petites actus en bref, avant d'aller faire un tour à la ZAD, c'est l'augmentation du prix du ticket de bus pour cette ville Lyon de plus en plus accueillante, qui passe de 1,80€ à 1,90€, comme ça, voilà, et qui passe de 2€ à 2,20€ dans le bus. Et comme le soulignait tout à l'heure notre camarade, vous entendiez pas, il y avait pas les micros de branchés, mais voilà, l'idée du ticket de bus à 2€ dans le bus, quand vous l'achetez,
si on prend directement auprès du compte. Voilà. Du chauffeur.
C'était pour éviter d'embêter le chauffeur avec ses histoires de monnaie. Vous voyez tout de suite, quand on prend, après, faut rendre la monnaie. Donc là, on se demande, à 2,20€, comment vont faire les chauffeurs de bus. Ah! peut-être une idée de grève à lancer, on ne sait jamais. Voilà. Ah bah non, parce que j'ai pas branché le truc. Alors attendez, bougez pas. Attention, attention, parce qu'il va falloir, vous allez avoir un tout petit peu de musique le temps qu'on appelle la ZAD. C'est un peu la classe quand même. Alors patientez, s'il vous plaît. The dark brown shades of my skin. That splash against my hollow bones, that rocks my soul. Whoa, 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 whoa. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghettos of the city, yeah, oh Lord, Mama, she worked so hard to earn every penny, something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Oh, somebody tell me, what can I do? Will I survive or will I die? Alors, il semblerait que nous soyons en direct de la ZAD. Allô ?
Je me fous quelque part où je gêne pas. Aïe.
Salut, tu nous entends ?
Radio Canu.
Oui, tu nous entends sur Radio Canu ? Allô, allô ? Allô ?
Ah, super, super. Oh putain.
Allô, la ZAD, est-ce que tu nous entends ? Non, parce que nous, on t'entend.
Oui, allô, allô, bonjour.
Oui, salut. Est-ce que tu nous entends bien ?
Oui, bah non, je vous entends pas bien. Ouais. Je vous entends pas bien. Attends, j'essaye de voir.
Est-ce que là tu nous entends mieux ?
En direct là. Attends, est-ce que oui, bon, bah, je peux répondre. J'entends la question, je crois.
D'accord. Bon, alors, est-ce que alors t'es, vas-y.
Alors écoute, depuis quelques jours, quand on dit qu'on va aller manifester à la ZAD samedi, Et ben quand même, là, assez largement, les réactions autour, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'il faut encore qu'on aille se faire chier à manifester à l'autre bout de la France alors que ça y est, c'est gagné ?» Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Bah déjà, parce que ça n'a jamais été si chiant que ça d'aller manifester à la ZAD, j'espère.
Non, non, c'est le trajet, tu vois.
Ah oui, c'est vrai que le trajet, d'ailleurs, hommage à tous les gens qui ont fait plusieurs fois le trajet pour venir de Lyon jusqu'à la ZAD dans des circonstances où nous étions menacés, où les travaux pouvaient démarrer, où l'aéroport n'était pas encore abandonné. Et c'est incroyable, tous les gens qui ont fait ça plusieurs fois. Et en même temps, est-ce que vous m'entendez ? J'ai l'impression que...
Oui, on t'entend très bien.
On t'entend très bien.
Ok, très bien. Alors je continue, c'est juste que moi ma voix est doublée sur le téléphone, bon je suis désolé, je vous raconte quand même, je suis désolé s'il y a des petits bouts de coupure, on capte mal, on est sur la table. Et alors pourquoi venir samedi ? Pourquoi se mobiliser de nouveau malgré l'abandon de l'aéroport ? Ben, déjà parce qu'on a envie de célébrer cette victoire, que c'est pas tous les jours qu'après une lutte aussi longue, un projet est abandonné, que c'est quand même quelque chose qui à un moment nous marque énormément, parce que ça ouvre la possibilité que ce bocage ne soit pas détruit, que tout ce qui s'est construit ici puisse continuer à exister.
Et puis, comme on l'a déjà souligné, c'est quand même pas tous les jours finalement qu'on arrive à avoir des victoires sur des sortes d'énormes tas de pognon accoudés à des énormes tas de flics.
Tout à fait, mais putain, j'entends super mal, on a un problème de... Oh, je suis désolé, on a un problème pour se capter, non ?
Bah nous, écoute, on t'entend bien, hein.
Ok, parfait.
On va essayer de parler plus fort, parce qu'en général, c'est vrai que sur nos appels téléphoniques, il faut qu'on parle plus fort, nous, dans le micro, pour que vous nous entendiez mieux.
Ok, très bien. Et alors, voilà, ça c'est la première raison, c'est de célébrer l'histoire de la lutte, parce qu'aussi c'est une lutte qui a pris plein de formes, c'est allé de grève de la faim, des manifestations, des occupations, des jets de pierre, des barricades, je crois que c'est une lutte qui a usé à peu près de toutes les formes combatives qu'on pourrait imaginer, légales, illégales, plus ou moins violentes, plus ou moins offensives, etc. Et c'est aussi cette diversité-là qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, et c'est le fait aussi que ces diversités-là ne se soient pas simplement clivées et opposées, mais qu'elles aient trouvé des manières de faire ensemble, c'est ça qu'on a envie de raconter, de dire que cet abandon, c'est pas juste une décision d'un gouvernement qui se dit « Ah ben tiens, il y avait un meilleur projet, on pourra grandir dans l'Atlantique ». Non, c'est bien qu'ils ont reculé, que c'est une défaite, que c'est même une déculottée après toutes ces années, ils ont dit qu'ils viendraient nous expulser, qu'ils feraient ce projet, le fait qu'ils aient abandonné. Mais c'est aussi parce que cette histoire n'est pas finie et qu'il y a une nouvelle séquence de la lutte et du mouvement qui s'ouvre, et cette nouvelle séquence, elle tient à la possibilité, ou pas, que ce qui s'est construit comme territoire libre, ouvert, autonome, avec tout un tas d'expériences différentes, puisse continuer à vivre et s'amplifier demain, sachant qu'au moment de l'abandon, ce que le gouvernement a dit, c'est on abandonne l'aéroport, mais on va se débarrasser de la ZAD et des ZADIS, en tout cas des occupants illégaux, et que l'objet de ce rassemblement, c'est de dire, ben non, au contraire, non seulement vous n'allez pas venir expulser, ils ont annoncé des expulsions possibles pour le printemps, mais... On va rester ici et rester ici avec un projet qu'on porte pour l'avenir, et c'est de montrer samedi qu'il y a énormément de gens, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui empêcheront toute possibilité d'expulsion demain, quand bien même l'aéroport aurait été abandonné, et des milliers, dizaines de milliers de personnes pour qui l'idée d'un territoire sur lequel il y a d'autres principes politiques, de vie, d'autres principes sensibles qui existent, pour qui c'est extrêmement important, pour qui c'est crucial aujourd'hui. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on va se rassembler, se mobiliser le 10. Et puis je dirais que la troisième raison, c'est aussi qu'on a envie d'ouvrir samedi la parole et une visibilité pour tout un tas d'autres luttes, et en espérant que cette victoire, elle en entraîne plein d'autres, que ce soit à Bure, à Roibon, que ce soit aussi sur d'autres luttes beaucoup plus urbaines et sur d'autres terrains que des projets d'aménagement du territoire, et qu'on a envie que toute la joie que ça a donné, la confiance que ça a pu donner sur le fait que c'était possible d'échapper à la fatalité, que c'est toujours l'État qui gagne, que c'est toujours les flics qui gagnent, que c'est toujours les tractopelles qui ont le dessus, et que cet espoir-là, il se diffuse. Et pour nous, c'est aussi important, et c'est dans ce sens-là qu'on a invité évidemment tout un tas d'autres luttes à être présents samedi et dimanche sur la
Est-ce que quand même tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fameuse manière dont vous vivez à la ZAD et qui vaut le coup d'être défendue?
Alors,
peut-être qu'on peut attaquer par un angle particulier, c'est cette fameuse histoire de maintenant que l'aéroport va pas se faire, il y a un paquet de terres qui se retrouvent disponibles, enfin même s'il y a déjà des choses qui se passent dessus, mais et il va falloir décider qui va, en tout cas ce que ces terres vont devenir. Et j'imagine que ça doit susciter un sacré paquet d'envies potentiellement concurrentes. Dans la mesure où ça ne serait pas l'État qui vous expulserait, comment est-ce que vous imagineriez faire pour décider qui va pouvoir en faire quoi?
Effectivement, là, il va y avoir un gros enjeu foncier. Alors, pour revenir sur qu'est-ce qui se passe de différent à ZAD, qu'est-ce qui se passe dans le monde normal, bon, voilà, on a eu la chance, le privilège depuis 5 ans d'être dans une zone sur laquelle, on va dire, les institutions d'État, leur police, les logiques économiques classiques n'avaient plus prise, ou n'avaient en tout cas beaucoup moins de prise, plus prise de la même manière, etc. Et ça a permis à tout un tas de gens de repenser un rapport à l'activité, au lien, mais à tout un tas de notions, comment on gère nos conflits, comment on produit, comment on échange, comment on habite, bah, qui soient plus guidés par les mêmes logiques économiques, institutionnelles, par les mêmes normes, etc. Et de le penser autrement, et ça je pense ça a été une espèce de richesse incroyable, et ça s'est pas pensé dans un petit ghetto alternatif fermé, mais ça s'est pensé avec tout un tas de paysans, de syndicalistes, de voisins, de comités, d'une manière assez ouverte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous envie, de garder, parce qu'on a l'impression qu'il y a une urgence à sortir des logiques économiques, des logiques de rentabilité, de tout un tas de rapports de merde aux institutions, de trouver des manières plus partageuses, plus communes, plus collectives de penser le monde. Bon, ça mériterait qu'on en parle beaucoup plus, mais là, on est sur un territoire sur lequel il y a 60 lieux de vie, il y a presque 300 hectares qui sont mis en culture collectivement, où il n'y a pas du tout que des projets agricoles, mais des gens qui organisent des concerts, qui font du soin, qui font un journal, qui font tout un tas de choses autres. Là, au moment où je vous parle, il y a encore des gens là, qui sortent de la forêt, il y a tout un groupe qui pense l'usage collectif des forêts, voilà, il y a tout un tas d'expériences qui se mènent ici et qui sont passionnantes, et qu'évidemment, on va dire, les institutions classiques voient d'un mauvais œil, parce que c'est pas la manière dont elles pensent le monde. Et nous, ce qu'on a imaginé avec les associations, avec les paysans, avec les riverains, avec les gens avec qui on est allé jusqu'à la victoire contre le projet d'aéroport, c'est que bah, finalement, c'était les gens qui avaient su prendre soin de ce territoire et le préserver qui devraient garder la main dessus et non les institutions habituelles, et qu'on devrait poursuivre cette expérience-là. Donc, il y a une volonté que les terres qu'on a sauvées ne repartent pas sur des voies agricoles classiques, ne repartent pas à l'agrandissement, ne soient pas reprises en main par la Chambre d'agriculture, la SAFER, etc., mais qu'elles restent sur des projets qui soient liés au mouvement. Et ça va être tout l'enjeu de demain, qui va être aussi une bataille sur la question foncière. On est sur 1650 hectares de terres. Alors après, voilà, il y a des vous m'entendez toujours?
C'est bon.
Allô? Vas-y, ouais. Vas-y, c'est bon.
Ok, j'étais pas sûr parce que je vous entends tellement mal. Voilà, donc il y a une nouvelle séquence, il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre à ce niveau-là. Après, ce qu'a imaginé le mouvement et ce sur quoi on bosse depuis maintenant plusieurs années, puis que ça s'est accéléré dans les derniers mois, c'est comment il pourrait y avoir une entité commune qui se mette en place, qui soit une entité qui soit constituée à travers les assemblées, par les différents usagers de la ZAD, qui peuvent être aussi bien les gens qui habitent, qui cultivent ici, les gens qui ont des projets réguliers, qui s'occupent de la bibliothèque, qui s'occupent des projets agricoles, des chantiers, etc., qui peuvent être tout à fait des gens qui habitent pas directement sur la ZAD, et comment, ensemble, on peut penser la prise en charge de ce territoire. C'est là-dessus qu'on bosse depuis un moment, et c'est là-dessus qu'on va continuer à bosser dans les prochaines semaines, en même temps qu'on va tout faire pour empêcher qu'il y ait des expulsions au printemps.
Eh bien écoute, ça a l'air hyper bien, on va y venir à cette manif. Et est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur un aspect, parce qu'on entend régulièrement parler dans les infos généralistes, et puis encore plus si on se penche sur ce qui circule sur Internet, de plein d'enjeux autour de cette nationale je ne sais plus combien, qui traverse la ZAD, qui est donc cette...
La départementale,
tout à fait. La fameuse route des barricades.
C'est un peu ce qui ressort le plus en ce moment, depuis un moment même, dans les médias, quoi.
Et c'est vrai que quand on est loin, on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe autour de ce machin, pourquoi c'est si important, et est-ce que c'est les conflits potentiellement entre vous aussi?
Oui, alors effectivement, c'est un point qui n'a pas été facile, cette question de la D281, c'était un symbole dans tous les sens, c'était un point de discorde dans le mouvement depuis des années, et qu'il a été au moment de l'abandon aussi. Alors pourquoi? Parce que cette route, c'est une route sur laquelle on a beaucoup bataillé en 2012 pendant l'opération César, qui a été creusée, barricadée, sur laquelle était la police, etc. Et après 2012, elle est restée en partie entravée, semi-circulante, mais ralentie, entravée par des chicanes, certaines constructions qui étaient devenues des cabanes qui étaient sur la route, etc. Ça, c'était à la fois Pardon ?
Oui,
vas-y.
Ah oui, c'était à la fois, on va dire, pour pas mal de gens, enfin, il y avait à la fois des usages de cette route, un symbole d'une zone qui est différente, qui est gardée, qui est en combat, etc. Et en même temps, il y avait aussi tout un tas de ressentis, de conflits autour de cette route, de la part aussi d'une partie des agris, pour qui c'était pas facile d'y passer avec le matériel agricole, d'une partie des voisins et riverains qui ne pouvaient plus y passer, ou qui faisaient le choix de plus y passer parce que c'était pas toujours bien passé pour eux sur cette route, etc. C'était un problème assez compliqué et on va dire un enjeu sur lequel c'était dur de rester unis après l'abandon, parce que pour une partie du mouvement, des composantes du mouvement, c'était évident qu'à partir du moment où le projet était abandonné, il fallait que cette route redevienne circulante normalement. Et cette évidence-là n'était pas partagée par une partie des occupants. Et évidemment, l'État, qui n'est pas débile, a appuyé sur ce point de conflit en disant « Bon, en fait, maintenant qu'on a abandonné, il faut que cette route soit libérée très vite, ou alors on va venir avec la police pour mener une opération dont on ne savait pas où elle s'arrêterait. » Et qui était voilà. Du coup, il y a eu, on va dire, des assemblées, des discussions qui n'étaient pas simples autour de ça, juste après l'abandon, qui était quand même un moment super joyeux, mais avec derrière ce point de conflit qui est ressorti, et avec finalement, de ce qui en est ressorti, une volonté des assemblées, sans forcément qu'il y ait de consensus ultime sur la question, d'ouvrir la route, de la rendre circulante, pour les voisins en premier lieu, et parce qu'on n'avait pas envie que les flics se servent de ce prétexte pour revenir sur la dalle, et qu'on avait envie de rester unis pour la suite, et par contre pour empêcher toute expulsion. Donc nous, en tout cas, ce qui nous importe en la matière, c'est qu'il y ait une promesse solennelle qui avait déjà été faite, mais qui a été renouvelée à ce moment-là de l'ensemble des composantes du mouvement, associations, paysans, etc., de rester très ferme sur la question des habitats, des activités, de tout le reste sur la ZAD, et de dire si demain la ZAD est menacée, évidemment on rebarricadera toutes les routes et pas seulement la D280. Mais effectivement, voilà, il y a eu tout un tas de débats qui n'étaient pas simples autour de la question. Voilà, j'ai l'impression ce que je peux en dire. À l'heure actuelle, il y a des travaux sur la route, de défrichage, il y avait des trous. Et
travaux qui sont protégés par énormément de flics, non?
Oui, dans les trois derniers jours, parce que la semaine dernière, on va dire que il y a eu des blocages sur une partie des travaux, pareil, on va dire des choses qui n'étaient pas des désaccords à ce niveau-là dans le mouvement, sur lesquels, bon, j'en sais rien, j'ai pas forcément envie de m'étendre là, mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont à la fois compliqués et qui en même temps ne doivent pas faire oublier qu'il y a toute une construction commune sur l'avenir et sur des lignes qui semblent primordiales et assez fortes, une envie d'empêcher toute expulsion de lieux de vie de la ZAD, et non pas seulement de la part des occupants, mais de l'ensemble des composantes, des groupes avec lesquels on a mené cette lutte, et une envie de garder une emprise collective sur ce territoire.
Bah, en tout cas, de l'extérieur, quoi, ça fait un truc où, effectivement, dans ce que tu disais, là, cette histoire de route, on voit bien que le gouvernement et les flics ont voulu appuyer sur, j'imagine, un point qui sentait peut-être litigieux sur les gens qui habitaient à la ZAD et qui s'organisaient ensemble. Et en tout cas, ça refait un truc de force, je trouve, sur le truc extérieur, de dire, en fait, même sur des points qui ont l'air très compliqués à aborder, donc moi, en connaissant pas tous les enjeux, enfin, de ce que tu dis, voilà, ça avait l'air compliqué, de grosses discussions avec des pour, des contre et des enjeux assez complexes. Et ben en tout cas ça fait encore un truc de bah en fait juste ok on arrive à faire notre sauce à l'intérieur de la ZAD et de cette zone et en fait ok on a pris cette décision là, elle est pas facile, tout le monde est pas d'accord avec, mais voilà c'est notre décision et on reste quand même malgré tout unis sur ce territoire là, ce qui est quand même assez chouette je trouve dans l'ensemble quoi.
Ouais, en tout cas c'est ce qui nous importe et on espère qu'on pourra aussi célébrer tout ça et se donner de la force pour la suite ce week-end. Ça va être assez beau pour les gens qui viennent ou pour les gens qui hésiteraient encore.
Et alors, est-ce que tu nous redonnes le programme de ce week-end ?
Voilà, il y a une espèce d'avion géant de 12 mètres de haut qui est en train d'être construit et qui va être brûlé comme un caramantran de carnaval, avec aussi des effigies de tout un tas d'autres projets abominables sur lesquels des gens luttent, que ce soit à Bure, à Dijon, à Roibon, en Aveyron, etc. Il va y avoir tout un tas de chorales qui vont chanter les chants qui ont marqué l'histoire de la lutte, des fanfares à gogo. Il va y avoir quand même une espèce de chaude ambiance, j'espère, malgré le grand froid, et quelque chose qui devrait être assez émouvant à vivre. En tout cas, nous, on a fait effectivement le jour de l'abandon une espèce de fête un peu folle, parce que ça faisait tellement d'années qu'on attendait ça. Cette décision, elle était tellement cinglée, même si on savait qu'elle viendrait un jour. Et là, on avait envie de retrouver ce qu'on a vécu le soir de l'abandon, mais avec beaucoup plus de personnes. Alors voilà, j'espère que ça pourra être le cas. Enfin, ce sera le cas samedi. Et on vous attend. Et merci de venir, et merci de nous avoir un peu interrogé sur les enjeux actuels.
Eh ben écoute, merci beaucoup et encore une fois merci globalement à vous à la ZAD pour cette victoire qui est quand même une sacrément belle victoire et qui est un peu qu'on ressent quand même un peu largement comme notre victoire d'un point de vue très global.
Ah ben c'est sûr c'est la vôtre aussi.
Et ben à
samedi certainement.
À samedi.
Salut. And I don't want to see you cry, baby. I'm leaving you behind. But it's just for a time. Faire un bond dans une autre zone de combat et on va aller du côté d'Afrin. Et il semblerait qu'Erdogan, Erdogan, le président de la Turquie, se soit encore planté sur l'efficacité de la résistance des Kurdes et de leurs amis, puisque l'armée turque pensait gagner la bataille dans la région d'Afrin en à peine 2 semaines, en gros. Et ben, c'était sans compter sur la détermination de ses habitants-habitantes et de ses combattants et combattantes. Alors, ça va bientôt faire 3 semaines que l'opération baptisée par Erdogan, Rameau d'Olivier, je mets beaucoup de guillemets à cette appellation, a commencé. 3 semaines que les troupes au sol composées de plus de 10 000 soldats de l'armée turque et de ses alliés n'arrivent pas à progresser de manière significative malgré les bombardements aériens. Donc voilà, pour faire un tout petit récapitulatif, au tout début, la Russie assurait une certaine protection aérienne dans la région d'Afrin, car ils y possédaient une base rendant donc impossible une telle intervention de l'armée turque, en tout cas par les voies aériennes. Ensuite, Erdogan et Poutine discutent dans leur coin et Poutine accepte de quitter sa base pour laisser les Turcs pilonner Afrin. Mais la Turquie est aussi alliée de son côté, pas avec des rebelles syriens genre Al-Nosra, qui est rien d'autre qu'une branche d'Al-Qaïda, qui sont eux des ennemis de la Russie, la Russie, elle, soutient Bachar el-Assad. Vous suivez ? Bref, là, Poutine est sacrément fâché contre Erdogan, car le Front al-Nosra, donc des alliés de Erdogan, ont abattu un avion russe, puis capturé vivant son pilote pour ensuite l'exécuter. Voilà, en gros, c'est la merde, mais au final, dans cette merde-là, il semblerait que la région d'Afrine puisse un peu tirer son épingle du jeu. Vous voyez, on est en conflit de guerre, c'est la merde. Vous voyez, les alliances, des alliances, tout ça est très compliqué. Mais et en plus d'une résistance assez importante, des troupes de Kobané et de les régions, donc Afrine, où j'ai pas reprécisé, mais pour les gens qui nous suivent pas de semaine en semaine, Afrine, ça s'est situé dans le nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, qui est dans la région du Rojava, qui est la région du Kurdistan syrien, voilà, cette espèce d'énorme région assez importante. Voilà, donc, qui avait été connu par Kobané, qui menait un combat contre l'État islamique il y a de ça, combien de temps ?
C'était à l'été 2015.
Bravo. Voilà, donc résistance victorieuse. Tout le monde espère que à Afrin ce soit le cas. Voilà, donc des troupes de Kobané viennent soutenir et mener les combats à Afrin. Voilà, donc en tout cas, cette résistance met à mal les plans d'Erdogan, qui semble un peu s'enliser quand même dans cette région. On espère que cette sortie sera victorieuse comme Kobané. En tout cas, on sait pas à quel point ça avait marché, mais en tout cas, ça avait eu quand même son effet, hein, tout l'espèce de soutien international autour, alors certes qui n'était pas du combat pur, mais en tout cas qui était de l'ordre de manifestation. En tout cas, ici, c'est ce qu'on peut faire. Soit allez vous rendre à Afrin, soit on vous rend Place Bellecour le samedi 10 à 15h30. C'est Place Bellecour. C'est certes un peu moins risqué qu'aller à Afrin, mais en tout cas, franchement, soyons nombreux et nombreuses.
Et en tout cas, si les Kurdes arrivent à résister à ce point-là, c'est certainement pas grâce à la diplomatie mondiale, qui, encore une fois, passe son temps à bien laisser tomber les Kurdes après les avoir complètement utilisés dans le combat contre Daesh, puisque une guerre contre, en l'occurrence, une entité qui s'appelait État, mais qui en réalité était effectivement en partie un État. Une entité qui, en tout cas, c'était vraiment une guerre avec une guerre, quoi. Et dans une guerre, il faut aussi des troupes au sol, il faut aussi des gens qui vont au carton, qui se prennent des balles. Et là, ça a été quand même essentiellement les Kurdes qu'on a envoyés, c'est-à-dire que l'Europe, les États-Unis ou les Russes ont utilisé et ont envoyé. Il se trouve qu'une fois que l'État islamique est à peu près dégommé d'un point de vue territorial, tout le monde laisse à nouveau tomber les Kurdes. Et par exemple, Jean-Yves Le Drian a expliqué que Erdogan avait une certaine légitimité pour aller combattre les terroristes, a-t-il dit, qui était à ses portes. Alors effectivement, les YPG, donc l'organisation des Kurdes à cet endroit, est beaucoup liée au PKK, donc l'organisation des Kurdes en Turquie, qui est considérée, entre autres, par l'Europe comme une organisation terroriste. Il n'en reste pas moins que l'Europe a été extrêmement contente de trouver cette organisation terroriste pour éviter que ça soit des Français ou des Américains qui aillent risquer de se prendre les balles.
Et c'est vrai que du coup, effectivement, cette appellation terroriste, on la retrouve dans les journaux, alors dans les journaux même, dans les journaux français, genre Le Monde, tout ça. Alors certes, en citant un peu le gouvernement turc, mais il n'empêche que quand on lit les médias, ils parlent de Turquie qui combat des terroristes kurdes, tout ça. Alors si on connaît pas bien la situation, on sait pas trop, on se dit c'est pas terrible, mais quand même, bon, s'ils emploient le mot terroriste, quand même. Et voilà, ils parlent d'alliés turcs qui quand même sont quand même des branches d'Al-Qaïda. Donc voilà, ça met un peu en balance. Enfin, vous voyez un peu le truc. D'un côté, on parle de terroristes, de gens qui voilà. Et enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais voilà.
Bah, comme souvent, l'appellation terroriste est un truc qui est extrêmement sujet à caution.
Et je trouve que ça vaut le coup de le rappeler. Mais quand même, la Turquie fait quand même partie intégrante de l'OTAN. L'OTAN dont fait partie les États-Unis.
C'est-à-dire que c'est nos alliés globalement.
Voilà, ça c'est pas juste un état un peu incontrôlable, on leur dit calmez-vous, mais on n'a pas trop de levier. Ils font partie de mêmes organisations que nous, quoi. Voilà, c'est pas n'importe qui. Oh là là, décidément.
Bon allez, on va faire un peu plus léger et puis vous allez voir, c'est mon petit moment poujadiste. Alors, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, il est bien connu que les députés, les gens pour lesquels on a voté, tout ça, des fois ils y vont, des fois ils ont autre chose à faire de vraiment plus important. C'est connu qu'à certains moments de certains débats, et parfois de débats qui par ailleurs passionnent un peu l'opinion, la presse, tout ça, ça arrive que au moment où on voit les bancs de l'Assemblée nationale filmés, il n'y ait pas des tonnes de gens. Bon, ceux qui y sont par ailleurs, éventuellement, ils font la sieste. Voire, il joue à Candy Crush, puisque on a aussi une polémique ultra intéressante de comment il s'appelle déjà ?
Ruffin,
qui accuse Castaner d'avoir joué à Candy Crush pendant son discours à l'Assemblée nationale. Vous voyez, comme la France insoumise, comme le reste, sont hyper intéressants. En tout cas, alors celui qui pour le coup est un peu plus étonnant dans son rôle, c'est François Drugy, le boss de l'Assemblée nationale, qui vient de, en réalité c'est pas tout à fait ça parce que ça a commencé il y a une semaine, de créer un petit scandale en proposant d'appliquer réellement les sanctions financières qui sont prévues pour les députés absentéistes.
Ah ouais. Réellement. C'est-à-dire que là.
C'est ça. C'est-à-dire que, globalement, il faut bien dire que ces sanctions sont prévues, puisque les députés sont payés pour aller à l'Assemblée nationale. C'est des gens, en fait, ils quittent leur taf, mine de rien. Et normalement, député, ça devient une occupation à plein temps. Donc, ils sont dédommagés. Mmh. Ce qui est bien la moindre des choses pour les représentants du peuple, pour qu'ils puissent, vraiment se dévouer à leur cause. Et donc, eux, ils représentent le peuple donc plus ou moins bien, comme on vient de comprendre, enfin plus ou moins activement. Et donc, François Drugy a dit, non mais ceux qui viennent jamais, il faudrait quand même qu'on applique ces sanctions financières qui sont prévues. Donc ben, c'est ça, parce que ces gens, ils touchent de la thune pour venir, mais s'ils viennent pas, c'est un peu, voilà. Alors, il propose donc d'appliquer ces sanctions qui... Ah zut, dites donc, on dirait que... Ah si, c'est ça. Et donc d'aller jusqu'à 4 320 € d'amende pour des absences... alors pour le coup, des absences répétées, hein, parce que c'est quand même pour les gens qui seraient absents aux deux tiers des votes solennels. C'est-à-dire qu'il y a les absences globalement aux séances, mais il y a les votes solennels qui sont prévus à l'avance. Les gens doivent venir. Alors, ils peuvent aussi ne pas venir comme n'importe qui. D'ailleurs, s'ils sont malades et qu'ils ont un certificat médical, si n'importe quoi comme ça, quoi. Mais globalement, ils sont quand même censés s'organiser pour venir. Et si ce jour-là, il y a la première communion du petit, enfin bon, non, ça marche pas parce que c'est pas le même jour de la semaine. Mais si s'ils ont un autre truc, ils sont censés plutôt faire péter l'autre truc et venir là. Bon, quand on dit 4 320 € d'amende, on est bien d'accord que ce qu'on appelle amende ici, c'est du fric. C'est pas du fric qu'on va réellement chercher dans la poche des députés. C'est une partie de leur paye, enfin de leurs indemnités, qu'on va retenir. Une partie seulement. Hein. Parce que même s'ils n'ont pas mis les pieds une seule fois à l'Assemblée et qu'ils ont passé tout leur temps plutôt à rouiller des canapes en regardant des séries comme vous et moi qu'on n'a rien à faire mais qu'on n'est pas payé pour dans ce cas ils vont quand même toucher de la thune. Donc 4 320 c'est seulement une partie. Alors vous allez me dire combien est-ce qu'ils gagnent ces gens-là? Ils gagnent quand même. Alors attention, c'est pas une paye, c'est des indemnités. Ils gagnent 7 210 € par mois. Pour vous et moi, si jamais on allait bosser, parce que
toi, avec ton RSA, tu gagnes combien là ?
C'est ça. Bon, mais alors, si jamais on allait bosser, si jamais on bossait 35 heures par mois et qu'on avait la chance d'avoir le SMIC, on gagnerait 1 173 €. On gagnerait 6 fois moins. Et nous, si on veut ce pognon, on a intérêt à y aller au boulot. Hein. Ouais. Parce que par ailleurs, plutôt comme vous et moi, dans la réalité, on est au chômage, on a aussi un certain nombre d'obligations, et comme par exemple s'actualiser tout bêtement, ou alors très bientôt rendre un rapport de 27 pages tous les mois pour détailler les recherches d'emploi qu'on a faites. Si on n'obéit pas à ces obligations, nous, les sanctions financières, elles sont pas, peut-être un jour quelqu'un dans quelques années dira « Oh, on pourrait peut-être commencer à les appliquer de manière un peu plus stricte. » Elles sont directes. Bon bah eux non, eux pour l'instant c'est... Alors voilà, alors François de Rugy était pas très content la semaine dernière, et donc, était pas très content à proposer d'appliquer ces sanctions, et donc hier, nouvelle séance à l'Assemblée, et alors là on peut dire que les députés étaient pas hyper joyeuses.
C'est compréhensible en même temps.
Mauvaise ambiance.
C'est compréhensible.
En même temps, réunis tous les chômeurs après la loi Macron, je suis pas sûr qu'ils soient hyper contents non plus.
C'est clair. C'est clair. Mais enfin, tous les chômeurs, on gagne pas pareil que les 7210 boules. Alors, les députés de La République En Marche, visiblement, c'est sans doute un mélange des deux explications. D'un côté, ils sont peut-être pas complètement habitués aux privilèges de leur fonction parce qu'ils sont relativement neufs dans l'histoire. Et donc, pour eux, gagner 7000 boules à rien foutre, ils sont encore en train de faire voir trop bien. Et c'est vrai que si on leur dit, non, mais il faudrait quand même pouvoir des fois prendre le train pour aller à Paname, ils disent, ah ouais, bon, d'accord. Voilà. D'autre part, on sait quand même qu'ils sont ultra disciplinés, hein, puisqu'ils ont toujours voté tout comme un seul homme, ils ont toujours refusé juste d'écouter ce que disent les gens des autres partis. Enfin, bon, en tout cas, eux. Et du coup, si François de Rugy a dit un truc, c'est pas eux qui vont critiquer. Mais alors, par contre, les députés des partis traditionnels, la bande, plutôt, c'est celle qui a passé toute sa vie et éventuellement la vie de son père et de son grand-père, a touché les indemnités et a quand même pas non plus se rappeler souvent que ça vaut le coup d'aller à Paris pour siéger. Et ben alors, ceux-là, ils étaient pas contents, pas contents, pas contents. Hein. Christian Jacob, les Républicains. C'est assez invraisemblable. Quand on est député, on n'est pas fonctionnaire. On n'est pas salarié de François de Rugy ou du bureau de l'Assemblée nationale. Et on n'est pas là pour marcher avec une pointeuse. Ça, pointeuse, tu parles. C'est pas pour eux. Il y a d'autres gens, ouais. Mais alors, oh, quand même. Attends, l'aristocratie de la République. Bon, côté socialo, un des porte-parole du Parti Socialiste, un certain Boris Vallot, a jugé que François de Rugy, s'il a un problème avec la présence de ses parlementaires, qu'il en parle avec sa majorité, comme s'il n'y avait que les socialistes, que la République En Marche qui venait pas, alors que vraisemblablement, c'est plutôt eux qui y vont un peu plus. On attend du président de l'Assemblée nationale qu'il défende l'Assemblée comme une sorte de syndicaliste, vous voyez. Qu'il défende la place du Parlement dans l'équilibre institutionnel. Mais bon, bien sûr, enfin bon, en même temps, je veux dire, même si on se met complètement dans leur logique, c'est vrai que la place du Parlement a plus d'intérêt s'il y a réellement des parlementaires, mais... Et donc, la réforme à venir ne doit pas simplement conforter une présidentialisation du régime qui a atteint un point considérable, a-t-il ajouté. Donc là, il est très... Enfin bon, en gros, il raconte un peu n'importe quoi. Bon alors, après, en vrai, quand même, on reste sur Canu et c'est sûr que nous, on se rappelle que ça peut nous rester en travers de la gorge que ces gens-là gagnent 7000 boules pour rien foutre. Après qu'ils aient été élus, et j'allais dire qu'on les a élus, mais alors, par exemple, dans ce studio, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à être allés les élire. Ah. Mais alors, en même temps, du coup, nous qui n'avons pas voté, en fait, on se rappelle aussi finalement que peut-être que c'est en restant à la maison que ces gens-là sont le moins nuisibles.
Exactement. À quand ça, c'est sûr. Une grève à l'Assemblée nationale.
À quand une grève à l'Assemblée nationale.
Et alors là, on revient sur des faits un tout petit peu plus anciens, puisque la semaine dernière, en feuilletant comme d'habitude les journaux, hein, je vois passer un article sur le site du Parisien.fr intitulé « Logement squatté, ce que permet la loi pour déloger les occupants » et non pas l'inverse, bien sûr.
L'article, je consulte des sites passionnants.
Exactement. Alors l'article fait écho, hein, donc c'était pour préparer les infos de la semaine, hein, vous allez comprendre, fait écho à un article précédent qui parle d'un proprio qui a perdu, enfin qui a pas perdu sa maison, hein, parce qu'elle est là, personne part avec, mais en tout cas qui se retrouve avec sa maison squattée à Garges-lès-Gonesse, et les deux articles sont bien évidemment à vomir. Alors je lis ces deux articles, puis j'hésite à en parler aux infos, puis finalement non, on en a déjà parlé des centaines de fois de ce torchon du Parisien, mais bon, un autre jour j'aurais pu en parler, voilà, vu que sans plus d'arguments que ça. En général, quand même, ce qui craint dans ces articles sur les squats, et plus particulièrement, hein, on se cache pas sur les squats de Rome, c'est que l'injustice, hein, étonnamment, est toujours du côté du propriétaire et quand même rarement du côté des personnes à la rue. Et que les journalistes Par exemple, hein, là, c'est pas exclusif aux Parisiens, hein, ça a déjà été le cas du Progrès ou de Lyon Mag, machin, pour plus, de manière un peu plus locale. Les journalistes n'ont aucun scrupule à balancer l'adresse d'un squat dans leurs articles. Voilà, injustice, hein, qui serait presque couverte, hein, si on écoute la presse, par la police et la loi, et police qui se retrouverait bien sûr démunie face aux squatteurs. Hein,
voilà. Alors, on va pouvoir en parler juste après avec notre invité.
Exactement. Alors, quand un quotidien local se fait le relais de toute la xénophobie ambiante, hein, vous savez, vous vivez dans le même pays que moi, ou en tout cas le même monde que moi-même, on est un peu moins étonné qu'une bande de crétins aille déloger des familles d'une maison. Et c'est bien ce qui s'est passé pour ces habitants de Garges-lès-Gonesse. La machine est lancée, le Parisien fait un article avec le proprio qui pleure devant sa maison qu'il avait abandonnée depuis plusieurs années, et qui, au passage, hein, quand même, on le souligne, le proprio avait été prévenu début décembre de l'occupation et s'est manifesté seulement quand même fin janvier. Donc voilà, on repérera les larmes de crocodile citées juste avant. Et là, un vénitieux, hein, donc juste à côté de Lyon, un gros con qui fait une vidéo sur Snapchat, qui lit l'article. Enfin voilà, il s'est dit, il est tombé sur cet article et il a fait une vidéo pour dire aux gens de se mobiliser pour dégager les gens dans la merde d'une maison vide située à Garges-lès-Gonesse. Donc on pourrait se dire que l'affaire s'arrête là. Hein, je veux dire qu'un crétin fasse une vidéo sur Internet, elle pourrait tomber à plat. Les gens pourraient se dire on en a rien à foutre. Non, le message est reçu et une bande de connards rentre dans la maison en question et fout sur le trottoir parents et enfants. Alors, voilà, donc là, voilà, dans le studio, vous êtes prêts à vomir vous aussi. Ce qui est dégueu là-dedans, c'est que d'un bout à l'autre de la chaîne, tout le monde a agi en bon petit soldat, en bon petit juge, en bon petit huissier, et que ceux qui se sont crus courageux à se prendre pour des flics se sont en réalité comportés comme des lâches en attaquant des gens qui sont encore plus dans la merde qu'eux, alors qu'ils auraient plutôt pu leur filer la main, hein, par exemple. On peut toujours rêver. Et ce qu'il y a d'encore plus dégueu, on aurait pu se dire que là, le Parisien allait faire un article en disant oula, tout ça nous a dépassé quand même, ça craint. Pas du tout, hein, c'est qu'une fois le sale boulot accompli, le Parisien est retourné sur les lieux, interroger ce fameux proprio qui remercie les jeunes et aussi, bien sûr, et il a raison de le faire pour le coup, les médias, et le journaliste décrire, je cite, une forme de justice dévoyée, illégale mais expéditive. Alors si quelqu'un sur internet pouvait faire un appel, voir une vidéo à déloger les journalistes du Parisien, bah, nous ferait le plus grand bien d'avance. Merci.
Alors on a commencé ce journal avec un territoire en lutte, et ben on va le terminer avec un autre territoire en lutte qui est en l'occurrence alors beaucoup plus petit au niveau mètre carré, mais les fameux squats villeurbanais à partir de et autour de l'Amphiz, le fameux squat qui a été ouvert suite à aux migrants qui se sont fait dégager d'un couloir dans lequel ils dormaient à la Part-Dieu, qui ont été accueillis à la fac dans un amphi, l'amphi C. Accueillis par des étudiants et dans un premier temps aussi par la présidente de l'université, puis finalement sous menace d'expulsion, qui des gens ont ouvert un endroit à Villeurbanne qui s'est appelé l'Amphi Z, puisque c'était la suite de l'Amphi C, et voilà, et du coup les gens sont allés y loger, puis sont devenus de plus en plus nombreux, entre autres des services de la préfecture ont envoyé des gens qui auraient dû théoriquement être logés par l'État, les ont envoyés là-bas. Et du coup, bah voilà, la place ne suffit pas, d'autres endroits s'ouvrent autour. Et donc on a ici Camille, alors cette fois-ci c'est pas un Camille de la ZAD, c'est un Camille de Lyon-Villeurbanne, qui va venir, qui va nous raconter des récents gros coups de pression de la part des flics.
Sur ces jamais, on pourrait les appeler 203.
On pourrait appeler ça comme ça. Oui, alors tout à fait. C'était très bien résumé. Et donc dans la suite des ouvertures d'autres lieux pour pouvoir continuer à loger des gens autour de cet amphithéâtre, il y avait d'autres bâtiments qui étaient libres, dont dont la maison Mandala, qui est gérée, on peut dire, par Agir Migrant, qui voulait justement conventionner le lieu. Et juste à côté, il y avait une autre maison aussi qui a été ouverte un petit peu après. Et donc c'est sur cette autre maison qui a été ouverte un petit peu après où moi je me trouvais avec d'autres copains pour pouvoir réaliser des travaux à l'intérieur pour que ça soit habitable, électricité, l'eau, qu'il y ait des toilettes. Et quand on est passé dans la cour, bon, ça après il y a eu un article sur Rébellion, mais quand on est passé dans la cour, les policiers nous ont demandé d'approcher du portail, ce qu'on n'a pas fait, ils nous ont mis directement en joue, quoi. Donc après, on a été tous menottés, rapidement fouillés et puis finalement relâchés. Mais la police municipale qui est arrivée un peu plus tard est allée dans la cour de la maison d'à côté, donc la maison de Mandela, a commencé à aller dans le jardin. Donc là, les gens qui venaient d'être libérés sont allés expliquer à la police municipale que c'était un lieu d'habitation et que malgré qu'eux pensent que c'était un squat, il y avait des lois et que là du coup, pour le coup, il y avait des gens qui habitaient, donc ils pouvaient pas rentrer comme ça n'importe comment, quoi. Donc il y a eu.
Puisque, alors, pour refaire une petite précision, parce que tous les auditeurs sont pas forcément hyper au courant du droit autour des squats. Mais en tout cas, une fois qu'on est dans un squat, une fois qu'on y est depuis 48 heures et puis qu'on a le minimum, c'est-à-dire de quoi se faire à manger et un matelas.
Exactement.
Le squat est considéré comme un domicile, même si c'est un domicile qui peut être occupé sans droit ni titre, c'est quand même le domicile de la personne qui y loge, et donc les flics n'ont pas le droit d'y rentrer hors cadre de flagrant délit. Et donc c'est pas flagrant délit d'habiter là où on n'a pas le droit, il faut que ça soit flagrant délit d'un truc grave et qui doivent être stoppés immédiatement. Et les propriétaires n'ont pas le droit, non plus que n'importe quelle milice citoyenne appelée par Snapchat, oui, de venir sortir qui que ce soit sans qu'il y ait un jugement du tribunal qui autorise ça, puis éventuellement une demande de la part du propriétaire du concours de la force publique, c'est-à-dire de l'intervention des flics. Donc les flics, a priori, n'ont pas le droit d'entrer dans un squat s'il n'y a pas une,
autorisation
ou quelqu'un qui soit en train de tuer quelqu'un à l'intérieur.
Voilà, ou une menace terroriste, puisque maintenant avec la loi élargie les lois antiterroristes, bah du coup des fois ils se servent de ça aussi, nous on a pensé, enfin ils ont fouillé, ils ont cherché des choses, des fois ils disaient non, c'est pas ça qu'ils cherchaient, enfin ils avaient l'air quand même très tendus. Est-ce que c'est aussi avec la tentative, est-ce que c'est une tentative aussi de criminaliser la lutte comme ça se fait en disant que c'est toujours les dangereux terroristes de l'ultra gauche, on revient encore sur ce fameux terme de terroriste ou qui est un fourre-tout pour les gouvernements et le capital qui tente de gérer le monde en tout cas. Et donc il y a eu cet épisode là où on a repoussé la municipale. Donc cet épisode a été clos, si on peut dire. Et puis, donc ça, c'était lundi de la semaine dernière. Et ce lundi de cette semaine, la police municipale est passée à l'amphithéâtre et est rentrée jusqu'à la cuisine. Elle a surpris un des habitants qui était en train de faire à manger. Donc, ils étaient un équipage de trois, la municipale. Ils lui ont dit bonjour, quand même, un minimum poli. Chose que nous, ils n'avaient pas forcément faite hein, quand ils nous ont braqués et qu'ils nous ont menottés. C'était plutôt ferme ta gueule, le tutoiement de rigueur. Et donc là, ils ont demandé s'ils pouvaient monter dans les étages et la personne leur a répondu que non, c'était pas possible. Donc là, ils étaient plutôt sur le départ. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, je les ai croisés. Voilà, ils voulaient avoir le dernier mot dans la discussion, dans tout ça. Donc vu qu'ils étaient sur le départ, ça s'est réglé comme ça. Et puis finalement, l'équipage est parti, quoi. Donc il y a ça, et puis là normalement je devais pas être tout seul justement pour venir, et donc là en fait il y a eu encore une arrestation aujourd'hui sur une partie des gens qui sont en soutien sur ces luttes là et qui pareil apparemment.
Écoute, tu dis encore une arrestation, mais c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est réellement embarqué.
Ah oui, qui est réellement arrêté, oui, là pour le coup c'est le premier coup. Enfin nous menottés juste derrière un port portail pour porte-bière prohibée, je trouve ça un peu, enfin voilà, c'était un peu exagéré aussi, quoi. Donc, mais oui, confondons pas tout, effectivement. Donc aujourd'hui, ouais, c'est, une première arrestation.
C'est aussi une sorte de montée en tension, quand même.
Quand même, voilà, c'est ce qu'on sent un petit peu. Bah moi, dans ce que je vois dans tout ça, il y a aussi le fait que la maison de Mandela, ils passent en procès très rapidement. Là, apparemment, ils risquent de passer en procès le 12 février. Donc voilà, ils essayent de s'organiser pour voir comment mettre un coup de pression par rapport à ça, parce que là, les démarches vont très très vite, alors qu'ils viennent juste de finir de faire les travaux dans la maison. Et voilà quoi.
Alors du coup, ça c'est le cas de la maison Mandela dont tu parlais, qui est la deuxième ouverture suite à l'ouverture de l'Amphizède. Est-ce que c'est le même proprio? L'Amphizède en est où au niveau de la procédure?
Non, alors c'est pas le même proprio, et l'Amphizède, en fait, c'était une ancienne, un ancien centre de formation des pompiers, et qui a été désaffecté, qui a été utilisé plusieurs fois pour le plan froid. Jusqu'en 2016, hein. Là en fait le SDIS, je crois que c'est eux qui gèrent ce bâtiment là devait vendre ou au Grand Lyon ou à Villeurbanne, et en fait ils sont en procédure, et du coup comme on est dans l'entre-deux d'un compromis de vente, en fait il y a plus vraiment de proprio, et il n'y a pas encore de nouveaux proprios, quoi. Donc, c'est une situation un peu compliquée, ce qui rend la procédure d'expulsion encore plus compliquée, et ce qui embête fortement la municipalité, je pense.
Et ce qui arrange, pour le coup, les occupants.
Oui, pour le coup, oui.
Mais alors donc là, pendant qu'on parle, il y a deux personnes qui a priori sont quelque part dans un commissariat.
Alors une personne, oui, parce qu'ils étaient deux dans le véhicule, et donc la personne s'est faite arrêter, enfin menacée apparemment avec arme aussi, extrait de la voiture. Les deux personnes ont été extraites de la voiture, et une personne est restée sur le trottoir, et l'autre a été emmenée, et la voiture a été embarquée aussi.
Et on ne sait pas a priori
avec
quelle accusation.
Non, on n'a pas de motif, on ne sait pas, et c'était plutôt virulent, donc la discussion n'était pas vraiment possible.
J'imagine qu'on pourra avoir des infos peut-être sur Rébellion.
J'espère, oui, on va essayer de mettre ça en place comme quelques articles qu'on a pu faire passer, quoi. Après, moi, ce que je vois, c'est que à Lyon, il y a on est aussi la ville du nouveau ministre de l'Intérieur. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier, que les pratiques qui ont été faites ici vont s'étendre de partout, et que à Lyon, il y a eu des grosses manifestations quand même de policiers contre justement les agressions envers la police, avec des slogans quand même plus que limite,
c'est-à-dire clairement des slogans qui sont des slogans du Front National.
Voilà, exactement, ouais. Et une grosse connivence avec, enfin plus qu'une connivence, des liens établis entre extrême droite et police sur la région lyonnaise, et beaucoup de locaux qui s'ouvrent sur Lyon. Donc tout ça
de locaux de groupes d'extrême droite.
Des groupes d'extrême droite, oui, exactement. Et donc du coup tout ça mène un climat qui est vraiment pas, qui est plutôt délétère qu'autre chose, quoi.
Ok, alors ce Canu Info touche à sa fin. Est-ce que par quel moyen on peut vous montrer de la solidarité? Qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous intéresse?
Bah déjà que les gens s'intéressent au lieu, à la rigueur passent même par curiosité ou quoi. Tous les dimanches à 17h, il y a une AG avec tous les gens qui veulent participer à ça.
À quelle heure et où?
À 17h à l'Amphizède.
Et si tu peux donner l'adresse?
Alors c'est 12 rue Baudin.
Ok.
Voilà.
Adresse qu'on retrouve facilement sur rebellion.info.
Tout à fait. Voilà.
Et est-ce que par exemple sur Rébellion aussi il y a une adresse mail, par exemple? Je me dis possiblement il y a plein de gens dans la merde. Est-ce que des gens qui autour de chez eux voient des maisons, des bâtiments vides, vous les communiquer? Est-ce qu'il y a une adresse mail pour ça?
Alors je crois si non il y a
non
une
je sais pas
mail, je crois pas. En tout cas je sais que pour l'Amphizède il y a contact Amphizède.
Et ben voilà.
Après l'adresse complète, je sais pas exactement, mais de toute façon ça, en regardant Amphizède sur rebellion.info, ça on trouve les articles.
Ok, et ben ça va être l'heure de alors attendez. Je voulais faire une dernière petite annonce d'agenda. C'est un petit peu en avance, mais finalement on n'a pas le jingle, non?
De quoi?
De la manif à Saint-Étienne.
Ah, putain, non, ça fait.
Bon, alors, on aurait eu un magnifique jingle, mais on l'a pas.
Les gens arrêtent d'oublier de le téléphoner.
Mais en tout cas, le 24 février, grand carnaval dans les rues de Saint-Étienne. Alors, grand carnaval dans les rues de Saint-Étienne pour protester contre le projet d'autoroute A45 qui, par ailleurs, est quand même aux trois quarts enterré depuis une semaine. C'est pas encore complètement décidé, mais en même temps, c'est pas mal.
Soyons prudents quand même. Mais...
C'est ça. C'est pas mal d'aider le gouvernement à se décider. Et de toute façon, autrement, comme pour la ZAD, ça sera l'occasion de fêter une belle victoire. Alors, en l'occurrence, une victoire plus des logiques gestionnaires qui se mordent la queue elles-mêmes que d'une mobilisation qui, pour l'instant, était en train de commencer à prendre son essor, disons. Mais de toute façon, ce carnaval ne concerne pas que la 45, puisqu'il y a aussi des histoires d'extension d'une carrière de pierre dans le village de Saint-Julien-Molin-Molette. C'est aussi un peu du côté de Saint-Étienne. Et puis aussi, enfin, plusieurs autres projets qui sont un peu concernés par cette manif, évoqués par cette manif. Donc c'est le samedi 24 février. Pour l'heure précise et le lieu, bah, ils étaient dans le jingle qu'on n'a pas, mais ils seront facilement trouvables sur Rebellion. Et voilà. Allez. Bon, bah, très bien. Je vois bien ton œil braqué sur l'horloge. C'est l'heure de laisser la place à Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et nous, on se retrouve à.
Et on se retrouve samedi, 10h, place, 15h30, samedi. Place Bellecour, pour soutenir la résidence d'Afrique.
Et on se retrouve samedi, 10h du mat, à la ZAD.
Ah, ben bah, voilà. Et ben, deux rendez-vous.
Il y en a qui se retrouvent et puis il y en a qui retrouvent les autres.
Dreadful the times, Babylon a plan the world genocide.